Monsieur Franck Fernand Kérine, bonjour.
Bonjour.
Après des crises sécuritaires qui ont touché la vie d'Aline Daho, comment fonctionne aujourd'hui le système judiciaire?
Depuis la fin de l'année 2020, nous avons essayé de rendre les activités au niveau de la justice, principalement dans la sous-préfecture d'Aline Daho opérationnelle. Malgré qu'il n'y a pas des infrastructures judiciaires, le tribunal est logé au sein de la mairie dans 3 bureaux. Les unités de police judiciaire aussi sont logées dans les propriétés des particuliers que nous avons réquisitionnées pour cette activité. Le personnel judiciaire se résume à 3 personnes. Le président du tribunal, le procureur de la République, y compris le greffier en chef. Nous sommes tous présents. Les avocats, jusqu'à présent, n'ont pas encore intervenu ici dans les procédures.
Comment se déroule aujourd'hui le procès?
Nous avons pu faire ce que nous pouvons faire pour essayer de répondre à un certain nombre de préoccupations tant sur le plan pénal qu'en civil. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, notre salle d'audience, c'est la salle de la délibération de la mairie, là où nous avons l'habitude de tenir les audiences civiles et les audiences correctionnelles.
Mais nous avons constaté que les agents de la police judiciaire ne sont pas nombreux pour vous accompagner dans le travail d'enquête, n'est-ce pas une entorse?
Oui, c'est un réel problème ici, dans le cadre du fonctionnement de notre juridiction, parce que, en termes d'effectifs, même au niveau de la gendarmerie, ça pose problème. Nous avons 2 OPJ et sur l'initiative du chef de brigade et son adjoint, ils sont en train d'initier les jeunes qui sont sortis fraîchement de l'école. Donc 2 OPJ pour une unité, ça pose problème. Et en termes d'effectifs aussi, au niveau de la gendarmerie, je crois présentement, l'effectif de manière générale, y compris les éléments, ne dépasse pas 10. Donc pour une grande ville et la gendarmerie qui a une compétence au-delà de 5 km de la ville, ça pose un certain nombre de problèmes. Je crois à plusieurs reprises, nous avons évoqué ça dans nos rapports. Et pareillement au niveau du commissariat, où nous avons un peu d'effectifs, mais qui se résume à 2 officiers de la police judiciaire, le commissaire et son adjoint. Donc du coup, ça freine aussi les enquêtes au sein de cette unité. Alors que nous devons avoir au moins ces 4, 5, 6 OPJ, y compris les éléments, lorsqu'il y a ce besoin d'enquête.
Ces agents ont-ils des moyens roulants pour leur faciliter les tâches lorsqu'ils vont chercher les auteurs d'un crime ou délit?
Il n'y a aucun moyen de déplacement. Moi-même qui vous parle là, le directeur de la police judiciaire, je n'ai aucun moyen de déplacement. Et au sein des 2 unités, ni au niveau du commissariat et à la gendarmerie, il n'y a aucun moyen de déplacement. Donc parfois, on est obligé de réquisitionner les motos pour nous permettre, dans le cadre d'une interpellation ou dans le cadre d'une enquête à distance, on est obligé de le faire dans ce sens. Mais il n'y a aucun moyen roulant pour ces 2 unités de police.
Pour une infraction, une personne gardée à vue à la police ou à la gendarmerie peut passer 3 semaines, voire plus. Or, c'est vous qui décidez ou non de faire passer en jugement l'auteur d'un délit ou d'un crime. Pourquoi le délai de garder à vue n'est pas respecté?
Je vous ai dit au départ qu'au sein de chaque unité, il n'y a que 2 OPJ. Et si aujourd'hui, nous recevons des plaintes ou nous interpellons peut-être 10, 15 personnes, c'est seulement sous l'égide de ces 2 OPJ que l'enquête sera conduite. Alors, travailler, peut-être mener des enquêtes pour 10 personnes ou 5 personnes ou un seul OPJ est sur ce dossier, sachant qu'il est enfermé dans un délai pour les GAV, 3 jours renouvelables une seule fois sur l'instruction du procureur de la République. Donc, du coup, ça va retarder aussi cette procédure. Deuxièmement, ici à Aline Daho, la maison d'arrêt n'existe pas. La suite de la procédure au niveau de l'enquête préliminaire, si le procureur pense qu'il y a des charges suffisantes qui pèsent sur une personne, il le place sous mandat de dépôt. Mais il n'y a même pas de maison d'arrêt ici. Parfois, on est obligé, des personnes qui sont placées sous le mandat de dépôt doivent être gardées au niveau de l'unité jusqu'à ce que l'audience y ait lieu. Donc du coup, ça prête à confusion. Ceux qui sont placés sous mandat de dépôt, pour le temps de préparer les audiences, ils peuvent passer des jours supplémentaires en dehors du délai de garde à vue. Donc c'est ces difficultés-là qui font de telle sorte que parfois on n'arrive pas à respecter les délais de garde à vue au sein des unités de police.
Comme vous venez de dire, la maison d'arrêt d'Aline Daho a été vandalisée depuis plusieurs années. Mais si quelqu'un est jugé et condamné, il est emprisonné où exactement?
Pour les condamnés, nous utilisons l'unité de l'autre du commissariat pour garder ceux qui sont condamnés de purger leur peine. Mais vous conviendrez avec moi, ce n'est pas une maison carcérale digne de son nom. Quelqu'un qui est condamné ne perd pas son droit, mais on est obligé de le faire parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour l'instant. Donc on ne voit pas pour des faits graves, on ne voit pas les condamner et dire bon monsieur rentrez chez vous à la maison. Donc on est obligé d'utiliser une salle de sûreté de la police pour mettre ces personnes condamnées en attendant qu'ils purgent leur peine. Et ce qui a fait qu'il y a un sérieux problème parce que, y compris les GAV, les condamnés, parfois la police est submergée.
Selon le code pénal, toute personne détenue doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie et sa santé. Cependant, des habitants d'Aline Daho déplorent les conditions dans lesquelles leurs proches sont détenus à la gendarmerie ou à la police. Qu'en dites-vous?
Les deux maisons qui abritent les unités de police sont des maisons des particuliers. Ce n'est pas la configuration normale d'une unité de police. Ce qui a fait qu'on est obligé d'utiliser une petite chambre pour une salle de sûreté. Mais s'il y a 10, 15, 20 personnes dans cette chambre, ça pose énormément de problèmes parce qu'il n'y a même pas assez d'ouverture, il n'y a même pas assez de place, il n'y a même pas de literie pour eux. Tout ça là, c'est vrai qu'ils déplorent cette condition. Mais non, obligé d'utiliser les moyens de bord pour faire ce travail. Pareil au niveau du commissariat, c'est la même configuration. Les chambres qui ont été construites, c'est pour une seule personne. Ce n'est pas destiné pour une unité de police. C'est ça qui pose problème.
Certains accusés et des plaignants ici à Lindao se plaignent de cette lenteur au niveau de la justice. Comment vous expliquez cela?
C'est leur droit de se plaindre. Mais nous-mêmes, nous obéissons à un certain nombre de mécanismes que nous évoluons avec. En dehors du principe normal qui dit, quand quelqu'un qui est poursuivi, il doit bénéficier de tout ce qu'on appelle le droit à un procès équitable. Et sa cause doit être entendue dans un délai raisonnable. À défaut de ces infrastructures, mais nous, on ne peut pas faire au-delà de nos efforts personnels. Pour que leur cause soit entendue de manière rapide, il faut que toutes les structures, tous les moyens de travail soient réunis pour nous permettre de rendre un procès digne de ce nom. Donc c'est dans un contexte un peu difficile que nous sommes en train de travailler. Et nous sommes obligés de le faire en attendant pour voir s'il y a l'appui des partenaires du gouvernement dans le cadre de la construction des infrastructures judiciaires, de la mise à la disposition de toutes les unités de police, les moyens qu'il faut, et y compris le tribunal de grande instance d'Alindao.
Certains habitants disent que la justice est faite pour les riches, par exemple. Ils disent que si les proches d'un prisonnier n'ont pas d'argent pour payer une amende, celui-ci pourrait passer plusieurs années en détention. Que leur répondez-vous?
Mais je crois aujourd'hui nous n'avons pas une maison d'arrêt pour qu'on puisse essayer de justifier. Il y a des cas de faits criminels que nous transférons directement sur Bambari et que je crois dans le cadre de l'information judiciaire, la procédure a évolué à un niveau déjà. Mais en ce qui concerne Alindao principalement, on ne paye pas les amendes dans les unités de police. C'est quand tu es condamné que dans la décision du juge sur le réquisitoire du procureur de la République, tu peux demander une peine d'emprisonnement ou assortie de sursis, mais une peine d'amende. Et c'est en ce moment que la personne qui a été condamnée pour des peines d'amende doit payer dans la caisse du trésor. Mais au sein de l'unité de police, je crois que c'est des pratiques que nous avons tenu beaucoup de réunions là-dessus. Et moi, je suis toujours regardant de cette question. On ne paye pas les amendes là-bas. Mais ce n'est pas une juridiction qui est censée de condamner les gens pour payer des amendes.
Quelles sont les plaintes que vous recevez régulièrement ces derniers temps?
Oui, dans ce dernier temps, surtout les histoires de pratiques du charlatanisme ou de la sorcellerie. Il y a des cas de vol, d'abus de confiance. Et aussi, il y a des cas de viol. Il y a des cas de coups et blessures volontaires. Il y a aussi des cas de dénonciation calomnieuse, injures publiques, diffamation, etc.
Mais pour cette année, combien d'accusés sont déjà passés devant la barre?
Nous avons pour cette année organisé une première audience avec 10 dossiers ou 6 dossiers retenus et jugés. Là, nous sommes en train de préparer encore une autre audience correctionnelle.
Monsieur Franck Fernand Kérine, procureur près le tribunal de grande instance d'Alindao, merci.
Je vous remercie.